et un empereur entrent dans un bar. Cette semaine, on a maté Dune et on en parle tout de suite.
Alors, McFly, on peut savoir quelle décision t'as prise en ce qui concerne le plan de ce soir?
J'ai pas le temps de faire ça, j'ai matériellement pas le temps de faire ça.
Il me fait plus perdre mon temps, bordel de merde!
Tournage d'un film? Je suis confus.
Pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un broquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées? Comme ranger mes chaussettes, par exemple.
Et à tous, et bienvenue dans 2 heures de perdu, cette semaine consacrée à Dune de David Lynch. Avec moi pour en parler,
bonsoir,
invité exceptionnel.
Ouais. Invité exceptionnel.
Ah, merci de m'accueillir, c'est trop cool.
Merci de daigner venir nous voir,
oui,
GG.
Bah, c'est plus rémunéré, qu'est-ce que tu veux que je te dise.
Mickaël.
Salut Sarah, salut à tous.
Et Julie.
Bonsoir.
Cette semaine, nous sommes donc tous réunis pour parler de Dune de David Lynch, sorti en 1984 de 137 minutes. Avec Kyle MacLachlan, Sean Young, Francesca Annis, Sting et Kenneth MacMillan. Et pour celles et ceux qui ne s'en souviennent pas, ça ressemblait à ça.
Vous êtes sur le point d'entrer dans un monde ou l'imprévisible.
Bien des dangers existent sur Arrakis.
L'inconnu.
Un extraordinaire secret a été préservé par les hommes de cette planète.
Et l'incroyable se rejoignent.
Je vois deux grandes maisons en conflit.
Un monde où les royaumes sont bâtis sur une terre mouvante.
Nous avons repéré un signe divers dont la taille dépasse l'imagination.
Voilà. 137 minutes pour visiter la planète Arrakis.
Agadir.
Il peut pas s'en empêcher.
Direct.
Mais non, mais bon, c'est pas.
Qu'est-ce que vous avez pensé de ce film? Et je vais commencer par Gigi, puisqu'il veut faire le malin.
Commence par le
invité.
Eh bien, écoutez, pour une raison que j'ignore totalement, je l'avais en VHS et je l'ai vu régulièrement quand j'étais petit.
Non.
J'étais un peu fasciné par ce film. Je comprenais pas grand-chose.
Tu m'étonnes.
Et en grandissant, je comprenais encore moins de choses. Mais je trouvais qu'il y avait un truc qui se dégageait. J'étais un peu intrigué et ça a une personnalité de dingue. Mais c'est vraiment chépère. C'est plus chépère que mes potes en festoche du musique à Cap-Dusba, quoi, tu vois. Mais en vrai, c'est vraiment intriguant. Maintenant que j'ai vu les nouveaux et tout, voilà, je trouve que évidemment, tu comprends beaucoup plus de choses. Mais sans déconner, ça essaye la race de trucs. Par contre, ouais, il y a vraiment mille problèmes. Ceci étant dit, parce que je connais les autres de David Lynch et je déteste, je pense que c'est mon David Lynch.
Ah ouais.
Ah ouais, grave. Bien sûr.
C'est celui qui l'a rejeté.
Non mais c'est quoi?
Celui que David
Lynch
a rejeté.
Oui, c'est ça. Évidemment, comme il est con comme un boulon de toute façon. Dès qu'il fait du bon boulot, il l'assume pas. Donc voilà.
Julie
en sueur, quoi.
C'est clair.
Et je l'emmerde. Non.
Écoutez, j'avais déjà vu ce film il y a longtemps, mais sans avoir vu les nouveaux Dune de Villeneuve. Du coup, ça, je vais pas vous mentir, me t'es un peu fait chier. Même si je trouve que t'es pas déçu du voyage et t'en as quand même un peu pour ton argent. Enfin, il se peut quand même des costumes, des choix artistique plus ou moins pertinent.
Audacieux.
Là, du coup, j'étais curieuse de le revoir en ayant en tête finalement l'histoire de manière un peu plus vissée dans ma tête aussi et en connaissant un peu le lore. J'ai trouvé ça interminable. C'était vraiment pas un très bon moment pour moi de revoir ce film. Je reconnais qu'il y a des trucs pas inintéressants dans certains choix de direction artistique. Je salue Toto, qui est un de mes groupes préférés. J'adore Africa, je vous le dis. La chanson, hein, j'ai pas le continent, hein, mais
t'as le droit aussi, hein, y a pas de souci.
Mais non, je trouve que. Oh, je trouve que c'est vraiment un objet artistique, quoi. Ça pourrait être dans un musée. Enfin,
sa place est dans un musée.
Ouais, c'est non. Je sais pas trop quoi dire de ce film. Je comprends pas les gens qui s'en font un truc genre ce Dune est incroyable par rapport à celui de Villeneuve. Enfin,
ils ont pris de l'épice, c'est sûr.
En fait, je trouve que ce qui en ressort, c'est que je pense que j'ai envie de lire le bouquin. Enfin, je me dis c'est peut-être l'endroit où j'y trouverai le plus de subtilité. curiosité et de porte ouverte à mon imaginaire plutôt que de m'imposer des images de ce type, quoi. Enfin,
tu renies le cinéma ?
Non, mais je plaisante, mais en vrai, je sais pas. Je doute sur ce film. Je suis pas convaincue à 100%, mais je suis pas déconvaincue non plus. Ça n'existe pas d'être déconvaincue.
Michael, tu es convaincue ou tu es déconvaincue ?
Eh ben, moi, je vais t'expliquer. C'est-à-dire que je précise deux choses, deux détails qui ont son importance.
Ça ressemble vraiment à du mansplaining, ce que tu fais. Écoute-moi bien, toi, là-bas. Ah,
ça va,
je vais t'expliquer la vie.
Non, justement, au contraire, parce que j'ai rien compris. je n'ai lu ni le livre, ni vu les films de Villeneuve, ce qui est un très mauvais départ pour regarder ce film. Je n'ai absolument rien compris. Je vais même aller plus loin. Je ne savais même pas que Lynch avait sorti ce film. Pourtant, j'ai vu pas mal de films du bonhomme, que j'aime pas trop, d'ailleurs. Et du coup... je m'attendais pas à grand chose, mais pas ça quand même. Alors, il y a un truc que j'aime bien quand même. Moi, je trouve qu'il a un côté vraiment nanar qui pas pour me déplaire. Mm. Et surtout, il y a une esthétique très Jules Verne, j'ai trouvé. Il y a un truc science-fiction du 19e.
Un peu steampunk, ouais.
Et ça, je trouve ça assez cool. Mais après, il y a tellement de trucs. Bon, déjà, tu comprends rien. Enfin, sur le plan narratif, c'est une catastrophe. Alors, pour essayer de faire comprendre un peu les choses, il met des voix off intérieures. Ouais. C'est une catastrophe. On se croirait dans Y a-t-il un pilote dans l'avion, quand la meuf, elle, dans sa tête, elle fait c'est bizarre, Jimmy ne vomit jamais. C'est un enfer. Les acteurs, c'est un enfer. Enfin, j'ai lu beaucoup de commentaires qui disaient, mais les effets spéciaux ont mal vieilli. Non. Mais je pense qu'ils étaient déjà vieux. Ouais. C'est comme si t'accouchais d'un bébé qui avait une barbe et des poils dans le dos, quoi. Ce film, je pense qu'il est sorti, t'es déjà vieux. Parce que c'est 84, mais en fait, c'est pas si vieux, 84.
Bah, non, mais sachant qu'on a fait les Star Wars, là,
il y a
quand même pas photo, quoi.
Blade Runner, c'est quelle année, Blade Runner? C'est
c'est dans l'amour.
C'est dans ces eaux-là.
Voilà, enfin, tu vois. Donc, non, enfin, c'est. Voilà. Alors après, c'est un objet de curiosité, quoi.
Mais... Ça coûtait une blinde en plus.
Ouais, j'ai l'impression. Hein. Mais du coup, objectivement, j'ai envie de dire que c'était vraiment nul.
82, Blade Runner.
82, bah, tu vois, c'est sorti avant. Et après, j'ai pas vécu un si mauvais moment, c'est une expérience.
Voilà. Un peu comme moi finalement.
Oui.
Et toi, Sarah ?
Alors moi, j'avais commencé le Dune de David Lynch il y a longtemps, genre il y a 4-5 ans avant de voir ceux de Villeneuve, et j'avais tenu un quart d'heure. Et au bout d'un quart d'heure, j'avais fait « Je ne comprends rien, je n'accroche pas avec l'esthétique de ce film. »
Tu n'accroches pas.
Donc j'ai arrêté.
Mais heureusement, 2 heures de perdu t'as rattrapé.
2 heures de perdu m'a rattrapé. Et j'avoue, chacun ses goûts, mais genre... Les gens sur Twitter qui se gaussent, genre, mais celui de David Lynch est tellement extraordinaire par rapport à celui de Villeneuve, etc. Pardon, mais on comprend rien à ce qui se passe. Rien, c'est quand même problématique. Après qu'on puisse.
Dans un film, oui, souvent, oui. Non,
c'est quand même chiant. Villeneuve, on a pu lui reprocher à juste titre que ses personnages sont pas assez approfondis, que, etc. Bah là, globalement,
voilà,
c'est encore pire. Et troisièmement, si vous n'avez pas vu, lu d'une, spoiler alerte, mais en fait, celui de Villeneuve, tu comprends le message final. C'est une critique du Messie, c'est une critique des religions, c'est une critique de la croyance.
Là, tu voudrais dire qu'il y a un point de vue dans la version de Villeneuve, là où il n'y en a pas beaucoup dans la version de Lynch?
Lynch, tu comprends pas ce qu'il veut te dire?
Non. Lynch, tu comprends pas
lui-même ce qu'il veut dire.
Non,
hein,
mais
je
Lynch,
pense,
tu comprends rarement ce qu'il veut te dire en même temps.
Ce qui est assez bizarre, pour le coup, c'est que. Enfin, pardon, je sais pas si t'avais terminé ou si je te coupe.
Pas du tout, j'en ai encore pour 2-3 heures.
Ce que je trouve bizarre, c'est qu'en fait, il y a. Enfin, désolé, ça va spoiler aussi celui de Villeneuve parce que c'est quand même le même bouquin, mais Villeneuve, il arrive même à te créer du suspense sur l'empereur qui commandit. Lui, Lynch, il te balance tout. T'as l'impression qu'il est en train de lire le bouquin, en fait.
C'est un manuel scolaire. Les 20
j'aurais trouvé
minutes,
peut-être ça plus intéressant qu'on me filme quelqu'un qui lise le bouquin. Hein,
Non, mais voilà. Après, il y a des trucs un peu. Enfin, moi, je suis pas contre une DA un peu folichonne, etc. Mais
un peu coquine.
Un peu coquine et tout, là, qu'on souhaite un peu tout ça.
J'imagine
ensemble,
Lynch. Je veux une DA folichonne sur ce film.
Vous démerdez. Je peux pas le savoir.
Mais la version que Lynch voulait sortir était beaucoup plus longue, je crois. Donc peut-être que tu comprenais un peu mieux, mais là non, c'est pas hyper réussi. Après, ça reste un objet, voilà. Après, Sting en petit slip, c'est pas mal aussi quand
ouais,
même.
Franchement, on en parlera tout à l'heure. Ouais. Mais ah oui, et je me permets juste de vous faire une reco, c'est de regarder Jodorowsky Dune pour le coup, qui est un documentaire et qui est,
ça me dit
qui est
de
vraiment,
voir ça.
Ça, bah, toi ça va te plaire, hein. Toi c'est 100% ta cam, mais qui est assez marrant aussi à regarder. Et si vous aimez bien Dune, je pense que ça ne peut que compléter votre visionnage.
Qui résume l'histoire, et c'est GG.
Notre invité.
Ah, notre invité. Formidable.
Je crois que c'est pas mal que ce soit pas tombé sur moi. Parce que j'aurais été vraiment dans la merde.
Alors, on est en l'an 10 000 et des brouettes, donc c'est vraiment beaucoup dans le futur. Et ce qu'on comprend, c'est qu'il y a des hommes qui se font la guerre, hein, comme d'hab, la guerre ne change jamais. Et ils se font la guerre parce que il y a une planète qui cuisine mieux que les autres. Et ils ont
une super épice.
Ils ont une putain d'épice. Et ils font le meilleur, les meilleurs plats du monde. On me regarde, j'ai l'impression. Quel genre de plat j'ai... Bah, tout ce qui est plat à base d'épices, quoi. C'est des trucs un peu mexicains, j'imagine, j'en sais rien. Bref, tout le monde va aller bouffer à leur table. Le problème, c'est qu'il y a une gérance tournante. Et bref, les gens s'engueulent. Et donc, va y avoir la guerre entre tout le monde, l'empereur, le duc, le baron, tout ça, pour se mettre, pour essayer de contrôler cette bonne table qui est donc Arrakis. Et nous allons suivre le personnage de Paul. Ouais, n'importe quoi. De Paul, qui est le fils du duc et qui va se retrouver un peu mêlé à tout ça et ensuite va créer sa vengeance. Et c'est tout.
Bah, c'est super. Merci Gégé. Bah, on peut s'arrêter là. Merci.
Allez, on se retrouve la semaine prochaine.
Allez, ouais, c'est salut. Le film s'ouvre sur une jeune femme très bien coiffée qui va nous poser un peu les bails, le contexte. Quoi.
En fait, ouais. Lynch, je pense qu'à ce moment-là, il a dit on va mettre un texte qui va défiler, tu sais, en perspective. Ça a déjà été fait, ça, David.
Ah merde.
Bon, on va mettre l'actrice alors.
Ça a été rajouté.
Tiens, Lys.
Je crois que je dis pas de conneries que j'ai lu. Ça a été rajouté plus tard, ces scènes où elle parle pour poser un peu les bails. Donc, on est en l'an 10 000.
Sûrement, je vous dis, j'ai pas fait les anecdotes. J'en ai plus rien à foutre.
Elle, c'est la fille de l'empereur qui gouverne la galaxie. Et dans la galaxie, il y a un truc super important, c'est les pistes. On va comprendre pourquoi, parce qu'elle a l'air...
Attends, les pistes
les pistes.
C'est une station de ski, c'est ce que tu es en train de nous dire.
Les pistes. Et les pistes, en fait, elles permettent aux navigateurs de la guilde de voyager dans l'espace sans voyager, sans se déplacer. On comprend pas très très bien.
C'est un peu de l'essence, en fait, finalement. C'est gasoil, quoi.
C'est mieux que l'essence, c'est la téléportation, ce qui plie l'espace, les espèces d'énormes pavers. Ouais. Là, mais
et ça leur permet de traverser, c'est ça.
Non, mais
ils bougent pas, en fait, ils restent le coup.
Attendez, voilà. ça c'est une certaine catégorie de personnes qui peut faire ça, mais l'épice ça alimente aussi l'énergie, non?
Non, je crois pas.
Non, c'est l'énergie vitale au voyage.
Ouais, c'est
ça
que permet le voyage. C'est que pour la cam et voir le futur.
Ah ouais, voir le futur.
Parce que tu peux te déplacer sans
dans
bouger
le futur
et savoir quel temps il va faire là où tu pars en vacances, ah ouais, quoi. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ça a été rajouté sans doute aussi parce que en fait, je crois, j'ai quelques
anecdotes
en l'occurrence.
Parce que moi j'ai noté, pardon, que c'était le gaz orange qui donnait le pouvoir de replier l'espace, pas les épices.
Oui, mais le gaz orange c'est de l'épice en suspension. Et en fait, dans les bouquins, c'est elle qui raconte, c'est le journal de cette meuf là, de la fille de l'empereur, et c'est elle qui raconte tout le bordel. Et c'est pour ça, je crois, qu'ils l'ont rajouté en mode bon bah je vous raconte mon histoire, quoi.
Et on apprend que donc l'épice elle est uniquement sur Arrakis ou Dune, qui est une planète
de brebis.
Qui est habité notamment par un peuple qui s'appelle les Fremen, qui attendent le Messie, parce qu'apparemment c'était pas Jésus-Christ. Première nouvelle. Et donc on va passer au générique avec la vue sur le désert d'Arrakis.
Et une musique pas mal quand même. Ça envoie un peu.
Ouais, la musique elle est cool, moi, je trouve. Ça va, ouais. Mais c'est parce que c'est Toto et ils ont aussi un autre titre qui s'appelle Africa qui est incroyable.
Il n'y a pas Brian Eno qui en fait une,
je crois. Ouais.
Mais je préfère Toto quand même.
Et on nous explique juste après le générique, on reprend, j'adore.
Il y a une nouvelle voix off, non? Ah non, c'est toujours la même?
Non, c'est une autre voix off. C'est un truc d'ordinateur, genre l'épice est sur Arrakis, la maison des Atreides et tout.
Il y a un présent de chaque planète.
Il y a un petit problème de voix off.
Ah oui.
Voix intérieure, télépathie, vision, voix d'ordinateur, vision. Il y a un moment, faut choisir son camp, quoi. Enfin, tu peux pas tout faire, quoi.
Ben là, en l'occurrence, c'est un truc d'ordinateur qui dit Marseille, Stade Vélodrome, tous les trucs du coin à visiter. Et il y a les Atreides et les
Harkonnens. Et en gros, on va visiter.
Les Atreides, c'est les gentils. Les Harkonnens, c'est les méchants.
En gros. Et on va. En fait, c'est pas vraiment ça ce qu'on veut nous dire, mais. Dans ce film-là, on le comprendra jamais.
Ils sont pas trop emmerdés pour les planètes, parce qu'il y en a une, c'est clairement un mélange entre la Terre et Saturne. Je sais pas si vous avez vu. C'est la Terre avec un anneau.
Après, les Harkonnens, ils sont rarement, on va en parler quand on va les croiser, ils sont rarement, en tout cas, décrits et envisagés comme des gens avec qui ça fait plaisir de prendre le thé, quoi. Enfin,
clairement.
C'est pas...
clairement.
Les Harkonnens, c'est les Finlandais, ça, non?
Ouais, c'est les Finlandais.
On va aller se balader dans la galaxie en commençant par Kaitan pour assister à la discussion entre l'empereur et un navigateur de la guilde, justement.
Oui.
Et l'empereur, le premier move qu'il fait, c'est sa fille qui vient le voir, il fait ta gueule.
C'est clair.
Juste ferme ta gueule.
Et il a vu le générique, il a fait « C'est bon, j'ai rien compris, ta gueule
!» Non, c'est bien, ça, tu rentres en empathie avec les personnages directement, là. C'est,
Il a sa copine donc, qu'on appelle les Bene Gesserit, là, qui sont...
Moi, je les ai appelés les Ben & Jerry's, pour faciliter toute communication entre nous.
C'est, en gros, c'est un groupe de femmes qui a un peu des pouvoirs de télépathie. Et...
Ouais. Des sorcières, quoi.
Et sorcières.
Et j'ai noté, quand même, dans le Dune de David Lynch, ils ont des petits chiens sur la planète de l'Empereur. Ouais. J'ai trouvé que ça manquait un peu au Dune de David Lynch. Oui. Qu'on n'est pas de petits chiens.
Tout le monde a évolué, mais pas les petits chiens comme ça. C'est vraiment une race spéciale qui va 10 000 ans en avance. Et donc, ils se sont dit que c'était la forme d'animal supérieur qu'il fallait absolument les garder.
En plus, c'est que des pugs.
C'est des putains de carlins en plus à la con. C'est vraiment l'animal qui est tellement déformé que clairement dans 20 ans ça n'existe plus. Mais il y en a encore en 10 000. Pourquoi pas.
Mais vous savez que c'est vrai, il paraît que c'est des trucs génétiques pour créer les petites races de chiens trop mignonnes et qui respirent vraiment très mal.
C'est pas mignon là, les chiens, les trucs qui ont leur nez là complètement. Qui rentrent dans leur
c'est mignon, mais
ça rend le
pauvres,
nez dans le crâne.
Alors, ils font beaucoup de proutes aussi, je crois. Ça me fait penser à Mickaël.
Peut-être qu'ils consomment de l'épice déjà.
Il y a plein de petites bêtes mignonnes. Il y a aussi le gros alien, donc le navigateur avec qui discute l'empereur.
Pardon. La couille de l'espace, on peut l'appeler quand même. Parce que.
Il est dans une espèce de formol en fait. Mais comment il.
Et la couille dans le formol, ouais.
C'est quand même chiant de voyager comme ça.
Mais là, on va voir.
C'est comme quand tu balades ton chat, t'es dans une cage.
On va voir qu'il a des facilités de voyage puisqu'il chie des planètes après.
Ah ouais.
Après dans le mais bon plus tard quoi.
Mais on comprend donc que il dit écoutez l'empereur, j'ai vu, il y a des bails, il y a conflit entre Harkonnen et Atreides et tu serais derrière tout ça et on comprend que l'empereur veut détruire les Atreides.
Ça fomente ouais.
Et c'est vrai que ça fait un peu spoiler
sur la suite. Si vous avez pas vu les Villeneuve, c'est con, c'est un peu la révélation du deuxième quoi.
Ouais, c'est ça.
Ah bon non, c'est mis
du
sur
premier,
la table aussi.
Non, c'est du premier.
Du premier.
Ouais. J'aime bien aussi parce que apparemment t'es empereur de la galaxie, mais clairement il y a la SNCF qui rentre chez toi pour te donner des bails. Genre, salut, on est les chefs navigateurs. C'est le bordel là, tu vas me refaire les routes et tout. Moi je suis là genre, bah attends, je suis empereur, je te ferme ta gueule quoi. C'est...
Alors spécial dédicace quand même, je tiens à le préciser. Sarah craché dans son verre. Voilà.
Non, j'ai réussi à retenir. J'ai tout ravalé.
C'est très rarement ce qu'arrive à faire Mickaël.
Non. Et on nous dit aussi qu'il y a un petit problème.
Ah oui, non.
Ah oui, la
couille. Non, non, mais la couille nous dit qu'il faut qu'on tue Paul Atreides.
Voilà. Il faut tuer Paul.
Exactement.
Tuer Paul. Il m'a dit vous me tuez le polo là.
Et alors c'est trop drôle parce que quand la couille se retire de la pièce, il y a des mecs qui passent la
Oui, mais super mal en plus. C'est vachement pas fini.
Non, mais moi j'ai aimé l'intention. Tu vois, j'ai dit voilà, ils rangent le lieu aussi propre qu'ils l'ont trouvé.
On dirait moi qui essaye de faire croire que je fais le ménage chez moi. C'est encore plus dégueulasse en partant.
La Ben & Jerry's, elle veut aller voir Paul.
Donc exactement. Donc on va se diriger sur Caladan, qui est la maison planète des Atreides. Et c'est là qu'on va savoir un peu plus sur les Bene Gesserit. Elles ont un but, c'est écrit le Kwisatz Haderach,
qui
est le surêtre.
Le surêtre. Et,
c'est très Nietzsche.
Et on apprend aussi par la même occasion que la mère de Paul apparemment n'avait pas le droit d'avoir un fils. Mais
c'est une Bene Gesserit.
Voilà, et qu'elle n'avait Ben & Jerry's, et qu'elle a le droit d'avoir que des filles, et elle a fauté. Elle a trahi
pour son mec.
Comment elle peut choisir?
T'as pas choisi toi, Gégé?
Non, moi j'ai pas choisi.
Ah bah tu t'es fait avoir. Hein.
Bah non, on m'a.
Bah rends-le hein, si t'es pas content.
Moi quand j'ai fait l'amour, j'ai pensé très fort à un zèbre. Du coup, on a un zèbre.
Ça fonctionne ça.
Mais ça prend de la place quand même, non?
Moi, c'est un peu chiant.
Comment tu dis Caladan? Parce que moi j'ai mis, ils habitent à Brest. Hein, parce que clairement, il y a de la flotte, mon gars. C'est vraiment, littéralement, ils vivent sous la flotte. Quoi, mais
Et on découvre Paul, donc joué par Kyle MacLachlan. Oui. Il est sur Encarta. Ouais. Il est en train d'apprendre ce qu'est Arrakis et l'épice.
Sachant que les moins de 35 ans ne savent pas ce qu'est Encarta.
Mais on les salue.
Mais on les salue quand
même. On les invite
même
à utiliser Internet qu'ils connaissent pour se renseigner sur ce qu'est Encarta.
Oui, ils se renseignent sur sa future planète. Et
il est au premier CD hein, dans Carta parce qu'il a l'air d'avoir quand même 25-30 balais et littéralement il connaît pas les planètes du coin là où il va aller dans 2 semaines. Donc il est genre
non, mais
ah ouais, ça existe ça, c'est pas
il
mal
est censé, je sais plus quel âge il est censé avoir dans le bouquin, genre 16 ans non un truc comme
ça. Je crois qu'il doit avoir 15 ans
il les fait pas
il fait un peu plus
hein.
Enfin comparé à
alors que Chalamou lui il fait plus jeune quoi.
Ouais. Oui.
Salut, c'est Timothée.
Ils l'ont coupé au montage.
Qu'on salue et s'il souhaite venir.
Ah, ça c'est clair. Franchement, on relance 2 heures de perdu. S'il veut venir, c'est peut-être la seule raison pour laquelle on pourrait le relancer entre nous. Entre que cette équipe, par contre, l'équipe d'une, on l'appellera.
Oui, sinon on peut le faire qu'avec des filles.
Oui.
Et Léa sera ravie. Et donc là débarquent 3 drôles de mecs. Ils ont tous des gueules trop cheloues. Toufir, le docteur Huet et Gurney. Donc les trois potes de Paul.
Le professeur Xavier, le mec de Code Quantum. Et le troisième mec, quoi. On l'appellera le troisième mec.
Et le troisième qu'on connaît pas.
C'est lequel qui a les grands sourcils là?
C'est Tufir.
C'est le troisième.
Lui, c'est majordome slash ordinateur humain, je crois. Ouais.
Enfin, alors, moi, ses sourcils, c'est pas ce qui m'a le plus dérangé, c'est plutôt son problème d'herpès.
Ah ouais, mais je l'ai noté aussi. Moi aussi, je l'ai noté.
C'est pas le seul à en avoir, hein, quand on va rencontrer le baron.
Oui, c'est vrai. Ah oui. Il a les lèvres toutes rouges.
Et il y en a un qui dit.
T'as pas intérêt à tirer sur sa clope à lui.
Horrible.
Tiens, tu veux la fin? Tu veux le cul? Non, ça va aller, vraiment, je suis déjà bien défoncé. Merci. Tiens, c'est fort, c'est de l'épice. Non, c'est bon, vraiment,
c'est
merci.
Bon,
merci de ta merde, j'ai bu dans son verre. Et l'autre Carlin aussi.
Il y en a un quand même qui dit « Je t'aurais fait en souvenir une belle estafilade dans la version française. »
Oui.
Une VF qui est vraiment savoureuse. Hein. C'est... Bon. On interroge le docteur sur Arrakis et sur les Fremen, et Paul sent la présence de l'empereur derrière les Harkonnen. Il a un bon instinct, on comprend que c'est un bon gars quoi.
Et surtout, il sent qu'il va y avoir des problèmes sur Arrakis.
Ils savent que c'est un piège en fait.
Ouais, ils s'en rendent compte en fait.
Le premier stade pour éviter un piège, c'est de savoir qu'il y a un piège. Le problème, c'est qu'ils savent pas le deuxième stade, c'est-à-dire
c'est ne pas aller dans le piège. Ouais.
c'est con qu'ils soient pas allés plus loin quand même dans la stratégie. Je sais que c'est un piège. Oups, je suis tombée.
Ah merde.
Et mes résultats, il faut quand même s'entraîner un peu à se battre. C'est là qu'on a cette magnifique scène de baston dans des carrés.
D'abord, il y a le robot combattant. D'abord.
Ah non, c'est pas après le robot combattant. Ouais, c'est non, d'abord.
C'est d'abord les.
D'abord les carrés.
C'est
d'abord
les boucliers en fait. Hein.
Ouais. Attends, c'est le truc Minecraft là?
Ils sont en Minecraft. Tout à fait.
Le lendemain, j'ai dit à ma femme, je peux dire, parce que je suis pas marié. Je lui ai dit.
T'es un meuf.
Je lui ai dit. Regarde le film que j'ai regardé hier, je lui ai mis cette scène, elle a fait waouh, wow, putain, t'as dû prendre du plaisir.
Ouais, c'est un peu mal fait, les effets numériques sont un peu
sont légers. Et effectivement, d'abord il y a l'entraînement donc dans les petits carrés, et puis ensuite il y a l'entraînement contre le nouveau module, le robot.
Mais très efficace.
On dirait deux barres Tetris qui sont en train d'essayer de se niquer. C'est bizarre.
Deux barres Tetris qui sont en train de se niquer.
Paul croise son copain dans le camp. C'est pas celui du magasin de jouets dans Maman j'ai raté l'avion.
Non, qui lui dit il faut aller parler à papa.
Mmh. Oui. Alors, Duncan, papa... on va pas le voir beaucoup après. Non. Hein, c'est pas...
ouais, bah, mais il y a quand même cette scène où ils se recroisent à un moment qui est la même que finalement dans le bouquin et dans le Villeneuve évidemment. Papa Atreides, il a vraiment le charisme d'une huître, quoi. Comparé à Oscar Isaac, c'est chaud. Hein.
Et puis, mais après, c'est des choix, c'est qu'il est pas très sympathique alors que le personnage d'Oscar Isaac, pour moi, est vachement. T'es vachement empathique, c'est quelqu'un d'hyper droit, enfin tu trouves.
Mais là aussi, on te le décrit quand même comme droit. Même on va le voir un peu plus tard.
Oui, c'est vrai, un peu plus tard, mais sur le début, je trouve qu'il est pas lichon. Il y a pas beaucoup.
Mais il est lichon, mais surtout, enfin, je trouve que l'acteur a zéro présence, quoi. Enfin, tu l'oublies aussi.
Moi, c'est ce qui m'a sorti.
J'étais à fond dedans là.
Je passais un très bon moment et là, j'ai fait dommage.
Et Paul, de son côté, fait des rêves.
Alors Paul fait des rêves un peu bizarres, quoi. Déjà, il y a Sting qui veut le tuer dedans. Il fait pas Sting.
I can.
Every breath you take.
Ah non, le stade de France.
You don't have to put.
Ah, ça aurait été trop bien qu'il commence à lâcher une song et tout, ça vire en comédie musicale, j'aurais trouvé ça excellent.
Et donc on a rencontré presque toute la petite famille Atreides, mais sauf maman. Jessica qui a peur
de perdre son fils dans l'épreuve de la boîte. Et alors l'épreuve de la boîte, c'est pas une épreuve du big deal, moi je vous le dis, c'est tout autre chose.
Oui, effectivement, donc c'est la révérente mère des Bene Gesserit qui va demander à Paul de mettre sa main dans une petite boîte.
Tu vois ceci? Mets ta main droite dans la boîte.
Que contient cette boîte?
Douleur. Stop. Mets ta main dans la boîte. Tu sens sur ton cou le gomme jabar. Celui-ci ne tue que les animaux.
Selon vous, le fils du duc serait un animal?
Disons plutôt que selon moi, tu es peut-être un humain. Ton esprit aura peut-être la force suffisante pour contrôler tes instincts. Ton instinct va te pousser à vivement ôter ta main de la boîte. Si tu l'écoutes, tu meurs. Tu sentiras d'abord une irritation. Là.
Ça, c'est parce que ça fait un baiser à
maintenant,
tout fire.
Maintenant, la démangeaison devient prelure. Fer rouge sur fer rouge sur fer rouge.
Ça brûle.
Silence. Silence.
Je ne dois pas avoir peur. La peur tue l'esprit. La peur est la petite mort qui conduit à l'oblitération totale. J'affronterai ma peur. Je lui permettrai de glisser sur moi, de me traverser. Je ne dois pas avoir
ta chair.
La peur est la petite mort qui conduit à l'oblitération totale. J'affronterai ma peur.
Ta chair. Tomber en lambeaux.
La peur.
Ça me fait marrer parce que ça fait... Mets ta main dans la boîte. Mais c'est le truc dans lequel tu fais griller les tartines le matin, ça. Non, t'inquiète.
Et quand il
tu vas sentir la douleur, et tu m'étonnes.
Et quand il retire sa main, elle est intacte, donc tout ça c'était dans sa tête finalement. Oui, oui. Et la Bene Gesserit, elle se dit, mais ce serait peut-être quand même bien l'élu, le petit Paul.
Eh oui.
Et Polo.
Ouais.
Ouais,
tout ça parce qu'il a passé le truc de la boîte.
Bah oui, parce que d'habitude les gens le passent pas, le truc de la boîte. Il la retire et il meurt.
Eh, Jésus, il s'est tapé des semaines là, à combattre les Romains, à revenir
clair,
à la vie,
à porter sa croix et tout.
Exactement, l'autre il arrive, main dans la boîte, merci, au revoir.
Jessica, de son côté, quand elle rentre, elle est bien soulagée parce que son fils unique est en vie. Par contre, Paul est inquiet pour son père parce qu'il a entendu les deux meufs dire pour le père, pas d'espoir. Rien à faire. Pour le père, rien à faire. Foutu, ça rime. Pour le père, rien à faire.
Voilà, Clio, j'ai réussi à la sauver, là, mais par contre, pour la personne, c'est pas possible.
Pour finir notre petit tour des planètes avant d'aller sur Arrakis, on va donc sur la planète des Harkonnen rencontrer le baron. Alors lui, il a aussi des problèmes de peau, c'est horrible. En plus, ils en jouent, ils lui enlèvent des puces.
Aussi, des problèmes de sourcils, aussi un petit peu.
Et des problèmes de capillaires, ils sont tous roux.
Oui, mais alors du coup, moi, j'ai une copine qui s'appelle Fanny et qui est fan des bouquins et avec qui généralement j'essaie d'aller voir les films.
Des bouquins en général ou
non, des bouquins.
Elle adore les bouquins.
Des rouquins.
Elle adore les bouquins. Et du coup, je lui ai dit, ah bah tiens, je regarde celui-là. Elle a jamais vu celui-là. Pour le coup, elle a vu que les Villeneuve. Et à un moment, je sais plus, elle me dit il paraît que je sais plus quoi des personnages. Et je fais surtout les Harkonnen, ils les ont fait roux. Elle me fait ah oui, mais le bouquin est roussophobe dans mon souvenir.
Le bouquin est pas mal de phobe, ouais.
Ouais, il est phobe de pas.
Donc elle a pas vérifié parce qu'elle l'a lu il y a un petit moment, mais apparemment ils sont roux, je crois, dans le bouquin.
Bah c'est possible. Il est vénère contre Leto, le baron.
C'est plutôt malin de les avoir fait chauves, je trouve. Est-ce que chauve is the new roux pour Denis Villeneuve, parce qu'ils sont tous chauves, non, les Harkonnen?
Ah oui.
Chauvophobe. Alors moi, de ce que j'ai cru entendre par des amis, c'est que dans les bouquins, les Harkonnen,
c'est
les
roux. Franchement, il y en a des biens. Enfin, j'ai un pote qui est un pote roux et apparemment.
Je suis absolument fan des roux. Je trouve ça magnifique.
Ah non, elle m'a dit, c'est trop bizarre qu'il ait fait les Bene Gesserit chauves.
Ah oui.
Et j'ai dit oui, mais il a quand même fait les Harkonnen roux. Il fait oui, mais ça c'est voilà.
C'est vrai.
Ils ont inversé. Les Harkonnen en fait sont plus un peu subtils et plus calculateurs que juste des espèces de gros méchants brutaux comme dans les films.
Ouais, parce que là ils sont vraiment t'as le baron, t'as ses deux neveux fait des rabanes et c'est tout le monde. Ils sont là genre
horrible. Mais pardon, mais enfin, je veux dire, dans le Villeneuve, il y a plein de qualités, mais c'est pas genre la finesse de description des Harkonnen qui est à retenir non plus, quoi.
Non, pas du tout.
Ils sont plus menaçants. Là, ils ont l'air bêtes et méchants.
Dans le film de Villeneuve, ils font plus peur quand même.
Dans le 1. Mais pas dans le 2.
Ah je trouve dans le 2 aussi quand même Fed et tout. Et on nous redit, ok, on l'a pas compris, qu'il y a une taupe chez les Arrakis, histoire de bien tout nous dévoiler.
J'imagine vraiment une petite.
Et c'est trop relou dans le chien.
Chez les Atrides, mais.
C'est le chien, j'aimerais bien que ça soit le chien en fait.
Non, mais si t'as vu le Villeneuve, tu sais qui c'est. Moi j'étais un peu déçu finalement de le revoir avec toutes les infos. Je sais tout ce qui va se passer là.
Alors par contre, le baron il est quand même bien foutu là, qui vole dans les airs avec ses pustules et tout.
Il appuie sur son bouton là.
C'est comme ça qu'il s'envole.
Et il vole et il va buter un mec après.
Ouais, mais
il lui retire des petites.
Ça, c'est un peu cracra, ça.
Oui, c'est comme le flambi, tu sais, il lui retire un truc, il coule. Voilà.
Non, mais comme un matelas de plage,
moi j'ai trouvé,
le sang qui sort.
Comme des boutons qu'il explose, en fait, un peu.
C'est vraiment cracra, quoi.
C'est l'heure du grand départ pour toute la petite famille Atreides.
Ah, bah, il y a quand même un personnage qui arrive à ce moment-là.
Il y a Sting.
Ah oui,
les neveux arrivent.
Sting fait vraiment pas du tout peur. Je sais pas ce que vous avez pensé, mais.
Il est ridicule.
Ah ouais, non, mais c'est.
Et il a l'air débile en plus.
Il a l'air débile, mais pour le coup.
Je pense qu'il était pas au courant, en fait. Il savait pas où il allait, il a pas dû lire le scénario.
Je pense qu'il rendait service, en fait.
Il a a dit hey, mais pour elle va tourner un clip là.
Ce perso qui est joué par Austin Butler dans le suivant, il a l'air un peu décalé quoi, mais même dans celui de Villeneuve, je trouve qu'il y a un truc il y a une folie un peu en lui voilà.
Sauf que là il est très clownesque quoi dans celui-ci.
Et donc et il m'a un moment, il a une petite boisson avec une paille qui sort et qui se rétracte, je fais putain mais David Lynch a vraiment pensé à tout quoi. Il y a même les petites boissons à paille des Harkonnen quoi.
Ah oui, des placements produits, ouais. ils écrasent des petits des espèces de gros cafards bien
des
juteux
pompotes.
Et ils boivent le jus. C'est pas terrible.
Donc c'est maintenant l'heure du grand départ pour la petite famille Atreides qui va faire donc un voyage dans l'espace sans se déplacer grâce aux aliens, grâce au gros. Là, t'as l'alien biscuit qui s'envole là dans le ray de lumière.
Et c'est là où il chie des planètes.
Ah, c'est il chie des planètes là.
Bah, je sais pas, il y a une fumée rouge qui sort de son cul planètes, là. Pardon, ouais.
Oh non, je peux.
Tu sais, Julie, moi, je chie des planètes aussi. J'y suis allé tout à l'heure.
Oui, on sait. Et ça sent pas bon, c'est Mickaël.
On sait.
C'est vraiment des planètes.
D'ailleurs, on veut pas balancer, mais il y avait pas que toi, mais bon.
Je suis content d'être revenu. Je vois que la ligne éditoriale a pas changé.
C'est bien parce que t'es un invité que. Voilà.
J'avais peur que ça évoque, que ça soit devenu trop politique comme podcast. Je suis content. Déjà pour les trois mots, on a pris 20 minutes.
Ouais, vous avez échappé au pire, rassurez-vous. Ouais,
vous inquiétez pas, je ferai un teasing.
On voit une femme aux yeux bleus qui raconte la prophétie.
Ah oui, alors attends, parce que moi, il y a un moment, j'ai noté petit chien, petite réunion de famille avec tout le monde et ça baise chez les Atreides. Alors, je suis perdue dans mes notes, Sarah. Est-ce que ça baise chez les Atreides ou pas ?
Je l'ai pas, mais peut-être. Il y a beaucoup de scènes. Donc
ils sont arrivés sur Arrakis ou pas encore ?
Pas encore. Ah oui. Pas encore. Tu vois Shani, en fait, le futur personnage de Shani qui dit il va y avoir la guerre sainte. Et il y a de nouveau la voix de la fille de l'empereur qui dit c'est l'arrivée des Atreides sur Arrakis.
C'est les vaisseaux en forme de vapoteuse. On dirait des petites vapoteuses qui volent dans le ciel.
Ouais, c'est pas très bien fait d'ailleurs. Mais rien n'est bien fait.
C'est ce que j'allais dire. Oui,
rien n'est très très bien fait. Soyons honnêtes.
Non, mais c'est vrai. Une fois qu'ils arrivent sur la planète et à la limite, il y a quand même des trucs sur Arrakis qui marchent. Mais alors dès qu'ils sont dans l'espace et tout, c'est la cata.
Ouais, c'est une catastrophe.
C'est maxi cata.
Il y a quand même un mec qui a dit ouais, c'est bon, c'est bien là.
Ça part en prod.
On passe chez une Bene Gesserit aux yeux Fremen qui parle d'un prophète qui les mènera hors des ténèbres.
Ah, mais pour moi, c'est Shani qui dit ça.
Ah bon?
Non, oui. C'est elle. Là où nous autres femmes ne pouvons aller, donc j'ai pensé au PMU.
Ah, mais ça, c'est avant.
Je peux pas vous aider.
Ne nous embrouillons pas. Tout ça pour dire, ils arrivent sur Arrakis, restons clairs pour le.
Ah oui,
que tout le monde
et il y a le père Atreides qui demande à Duncan ce qu'il a appris sur les Fremen,
exactement.
C'est ça?
Exactement.
Ah, c'est bon, j'ai raccroché le wagon.
C'est là qu'on est.
Et alors, parti.
Duncan va dire deux choses. Ce sont de forts guerriers.
Ouais.
Leur confiance est extrêmement dure à avoir. Retenez bien ces choses-là, ça va servir pour plus tard.
Ouais.
Et ils sont très forts et ils ne donnent pas de confiance facilement. Vous verrez.
Et on entend qu'il y a aussi pas mal de rumeurs sur leur communauté, dont ils seraient qu'une poignée, mais peut-être qu'en fait.
Ils sont très nombreux.
Ils sont très nombreux et c'est eux les vrais maîtres d'Arrakis. Ouais.
On apprend aussi que comme il fait très chaud sur la planète, il faut bien conserver l'eau.
Il faut bien boire, il faut s'hydrater.
Il faut beaucoup s'hydrater.
Alors ça, c'est pratique aussi parce qu'on va en parler. Vraiment beaucoup au début, genre Arrakis, vraiment il fait chaud sa mère. L'eau c'est vraiment extrêmement compliqué à gérer et tout. Derrière, il va se passer 1h40, tout le monde se balade dans le désert. Il n'y a pas de problème de bouffe, il n'y a pas de problème de flotte, personne ne transpire.
Et il se balade dans le désert avec les combis que justement on va présenter à Leto et Léo, qu'un mec qui a l'air d'être un Fremen leur présente.
Bah, c'est un Fremen.
Et c'est une technologie, oui mais il dit qu'il ne l'est pas alors qu'en fait il l'est.
Mais
c'est un peu
il dit que c'est parce qu'il a respiré
les pistes. Ouais. Les pistes, ça fait grave les yeux comme ça. Ça, les pistes, ça explose les yeux.
T'es un soldat de Dja. Non gars, c'est bon. Non, pas du tout, je suis de passage, c'est tout. Tu veux finir un Spinoza,
c'est
moi
même...
les pistes je la fume dans une bouteille.
Leur combinaison
ça refroidit
quand même. Le principe des combinaisons, c'est des combinaisons dans lesquelles tu sues, tu récupères ta sueur et ensuite tu la bois. C'est quand même ça tout le principe.
Ouais, alors, en même temps la sueur, ce qu'il faut quoi.
La sueur, le pipi et le caca.
Oui, pour avoir tous les nutriments.
Putain, Mickaël, c'est le roi du pétrole, quoi.
On peut trouver cette combi où, à votre avis?
Chez Decathlon, ils en font, il me semble.
Et on comprend que
pour des soirées un peu
que Paul il l'a ajusté direct sa tenue alors que soi-disant c'est hyper compliqué
parce qu'il adore porter les trucs ajustés Paul. Et donc il part
à l'heure. Vous faites ça mais
Paul, vous en aviez déjà mis une combinaison à caca? Non pas du tout, mais enfin bon, je sais pas, j'ai non, ça m'a semblé pas mal. Non, parce que c'est vrai qu'on sait qu'il y en a qui traînent en soirée après. Non, pas du tout, mais c'est... Vous l'aviez porté pour les loisirs à côté de à côté d'Arrakis, je sais pas.
Alors ils partent avec leur petit vaisseau qui est quand même bien moins stylé que celui de Denis Villeneuve, hein, pour le coup.
Ils vont visiter les champs d'épices Et ils sentent que soudain, il va y avoir un ver qui va apparaître.
Paul, il est un sup. Et j'ai envie de voir le ver des sables. Il est où le ver des sables?
Papa,
j'ai vu sur Encarta le ver des sables. Il est où le ver des sables?
Ah oui, c'est vraiment, t'amènes ton gamin au zoo et en fait, t'essaies de lui expliquer des trucs. Bon, c'est là où on récolte les
vers des sables.
Eh, le ver des sables, on peut voir le ver des sables. Putain, tu vas fermer ta gueule.
Non, et c'est là, c'est vrai qu'on va voir que Leto est un homme bien. C'est qu'il y a un ver des sables qui approche de la moissonneuse et en fait, il va décider de sauver les gens et de pas sauver l'épice.
Et oui. Et on se pose quand même la question, est-ce qu'il n'y a pas un rapport entre l'épice et les vers? Enfin...
Mais on a une réponse à ça?
Oui.
Voilà. Moi, je pense que oui. Ça, mais,
oui, alors sais, là,
c'est
ça
des informations qui filtrent pas trop hein, dans nos milieux. Hein. Enfin, attention.
Et donc, il dit
à ce moment-là, attention, il voit le dispositif, il dit ce n'est ni, ni, ce n'est ni fait ni à faire. Je dis, putain, on dit encore ça en 10321. Oui.
Les grandes expressions ont traversé le temps.
Ça me fait trop rire parce qu'à un moment, dans la VF, ils appellent le ver, ils l'appellent la chenille. J'ai vraiment noté, mettez deux pieds en canard, c'est la chenille qui redémarre.
Non, non, la chenille, c'est le truc qui est en bas. Que
oui, c'est les trucs avec des chenilles, genre comme des gros chars. Mais...
pas aidé, hein. On est pas aidé. Hein.
Normalement, il faudrait qu'elle redémarre, en effet. Oui. Et là, le problème, c'est que la chenille est pas toujours à l'heure, quoi.
Oui. Et donc, ils sauvent.
Vous aviez la ref chez vous.
Ils sauvent tout le monde. Donc tout le monde est content. On rentre sur Arrakis et là.
Attends, et d'abord Paul il sniffe un peu d'épices.
On sent que ça l'envoie loin.
Premier fixe de Paul, je les ai notés tout au long du film. Et là j'ai envie de dire Paul est arrivé sur Arrakis. Bon lui il est à Coachella. Hein. Donc
là il a. Son... Lui, c'est fini.
Là c'est premier para. Il vient d'arriver. Il se dit bon allez faut que ça.
De toute manière ça lui permettra de traverser les épreuves un peu plus serein. On va le voir.
Si je veux arriver jusqu'à 2h du mat et Miley Cyrus, je vais prendre
le
premier.
Jessica est avec le docteur et elle sent qu'il y a bail, elle sent que c'est louche.
Elle sent qu'il y a quelque chose et elle inspecte aussi le petit personnel parce qu'ils ont tout un petit personnel, dont une petite dame avec les yeux bleus.
Tout à fait.
La gouvernante qui sent un grand danger. Ah, moi j'ai mis la Paul goûte l'épice et ça l'envoie loin.
Et puis quoi?
Et ça l'envoie loin.
Mais alors, attends, il a quoi comme vision là déjà?
Alors, seconde lune, dormeur doit se réveiller, suis-je l'élu?
Oui, on n'en a pas parlé de ça, du dormeur de se
les
réveiller.
Les gars, franchement, moi je suis sûre que je suis l'élu. Mais oui, bien sûr.
Ah oui, se re-shoot à l'épice.
Bien sûr, Paul, tu es l'élu.
Le dormeur doit se réveiller en fait, c'est parce qu'il y a un DJ pas loin qui fait un set, il fait pouf.
Alors moi j'ai une autre théorie, c'est je pense que c'est David Lynch qui s'adresse directement à nous à ce moment-là du film. Hello. Oh, je décline quoi. c'est pas fini, c'est 1h20.
Et alors qu'il est tranquillou dans sa chambre, Paul va se faire attaquer par une seringue volante globalement.
Un chercheur tueur.
Oui, qui est une seringue volante.
Ouais.
Ah oui, c'est ça. Ouais. Voilà.
Et il faut rester immobile pour le feinter, donc il veut essayer de l'attraper quand même. Il est face à lui, il essaie de pas bouger, mais putain, il y a la gouvernante qui ouvre la porte.
Et paf,
heureusement.
Bim.
Il la sauve.
Ouais. Exactement.
Moi j'ai noté Paul se met un peu dans le pif. Par contre, il se pique pas. Et ça c'est bien.
C'est vrai.
Et ça j'ai trouvé que c'était
bien. On apprécie.
Est-ce que c'est un conseil que tu donnes aux auditeurs?
Absolument.
Et donc la gouvernante lui parle d'un traître dans la maison et elle croit pas si bien dire parce que alors que Leto dit bonne nuit à son fils, il dit il y a le bouclier, tout va bien, il dit à Jessica je suis désolée de pas t'avoir épousé et tout. Et ben soudain c'est l'attaque et nous découvrons. Qui est le traître?
Yoé, il a saboté nos générateurs. Nous sommes à découvert.
On n'a plus d'argent.
Le bouclier du palais est désactivé. J'ai détruit les nouveaux modules étranges de l'armée. J'ai abattu la maison des Atrides. Pourquoi? Je veux tuer un homme. Pas vous, mon cher duc. Vous étiez déjà mort. Mais vous approcherez le baron avant de mourir. On vous ligotera, on vous droguera, mais vous pourrez encore attaquer. Vous pourrez encore attaquer. Quand vous verrez le baron, vous aurez une nouvelle dent à gaz empoisonnée. Il s'approchera de vous afin de se régaler de vous. Une seule morsure de cette dent et une forte expiration.
Je y refuse.
Non, vous ne pouvez pas. Parce qu'en retour... je sauverai la vie de votre Paul et de Jessica.
Jessica.
Pour Paul. Quand vous verrez le baron, n'oubliez pas la dent. La dent.
Oh.
La dent.
Très bien, GG, autre chose.
Ils vont le faire beaucoup.
là-dedans.
Non, mais... ils vont le faire beaucoup répéter les trucs trois fois dans le film.
Oui.
Et d'ailleurs, c'est un nouveau jeu avec mon fils depuis que j'ai vu le truc. C'est faire Shia Alun, Shia Alun. Je le pose sur lit et que comme ça, il vient vers moi avec un petit verre des
sables. Ah, oh, choupi. Oui, bah, c'est mignon, dis donc. Et,
merci.
Et non, mais il lui
tu
fait
parles,
un petit truc.
Il le regarde,
de...
il fait Lisa Nelgame. Je sais pas si vous savez quelque chose, Lisa Nelgame.
Non, mais il lui fait un échange de dents très rapide. Ça doit faire quand même mal parce qu'il lui arrache une dent et il lui en recolle une autre part de.
Oh, il est déjà drogué.
Ah, oui, de toute façon, il est en train de.
Non, c'était un bridge, je pense.
Et donc Arrakis est attaqué par les Harkonnen, branle-bas de combat,
tout explose.
Boum, ils sont habillés en apiculteur, j'ai remarqué. Je croyais qu'ils allaient chercher du miel.
C'est super tenue de combat.
Ouais,
hein,
ouais, c'est
oui, ils sont en combinaison un peu vénère. Ouais, j'ai pas.
Il y a une scène de l'enfer où le baron il a baillonné Jessica et il lui crache dessus.
Oh, c'est l'horreur.
C'est atroce.
C'est
atroce.
Enfin, c'est l'horreur.
T'as l'habitude, Mickaël.
Alors, on notera que pour des gens, qu'est-ce que quoi?
Bah, c'est ce que me fait Sarah pendant la nuit quand je vais dormir chez elle. Bon, je me réveille dans la nuit, elle me crache dessus.
Et puis bave, je crache pas, je bave. C'est beaucoup plus sexuel. Sexuel.
Ah oui, carrément, il y a des kings un peu d'elle,
oui,
là.
C'est
quoi.
Ça. Et c'est pour ça que t'es parti, Gégé. Tu peux nous le dire, tu sais, dans tes blues.
Il y a des soirées épices chez Sarah, apparemment, je suis pas invité. Là.
Grosse soirée épices, n'hésite pas à venir. Et donc, ouais, Jessica et Paul vont être embarqués dans un petit vaisseau pour être mis dans le désert, donné au vert. Pareil, je trouve que ça complique toujours le truc. Pourquoi tu les butes pas? Tu sais que ça va mal finir. Bute-les direct. Pourquoi tu les envoies dans le désert?
Non, mais c'est pour, à mon avis, c'est parce que c'est censé être un complot et que t'es pas, tu laisses pas des preuves de meurtre de gens. Enfin, je sais pas.
Ouais.
Enfin, après, pourquoi ne pas envoyer le père aussi, tu vois?
C'est expliqué dans le truc de Villeneuve. C'est parce que sinon, ils se font lire dans les pensées par les Bene Gesserit. Et en fait, ils ont promis aux navigateurs de pas buter Paul et Jessica. C'est l'inverse. Mais là, voilà, il y a plein de trucs.
Très bien. Et donc, là, c'est Paul.
C'est bien parce que, pardon, mais Dune de Lynch, c'est bien de la. Enfin.
Ils ont
été expliqués par Dune de Villeneuve. Ouais.
Mais grave, ça fait l'explication de texte. Non, et Paul va s'essayer à la voix. Ici, la voix. Il faut nous libérer à présent.
Ne touchez pas à la mère. Je répète.
Et donc, non, mais il va réussir à donner des ordres comme sa mère, en fait, comme une Bene Gesserit, pour se faire libérer et reprendre le contrôle du vaisseau.
Ouais, on n'a pas dit que le bouclier était tout cassé aussi. Hein. Ils ont tout cassé le bouclier.
Ah bah oui. Et le baron de son côté savoure sa victoire.
Non, ils ont cassé l'effet spécial moche.
C'est pas pareil. L'effet spécial du bouclier. Ouais, le Yue là, bon espion, hein, parce que le mec il est médecin, mais à côté de ça il a fait du bon taf, hein, parce que il y avait quand même une grosse armée, alerte écarlate, qu'ils savent qu'il y a des traîtres et tout. Bon, il est passé crème, hein, il y a pas de problème.
Moi j'ai noté, on cherche l'anneau du duc, aucune contrepétrie.
Et oui, c'est le baron qui savoure sa victoire face à un Leto mourant, et Leto il a rien compris à ce qu'il devait faire.
Ah putain, il est conçueur.
Croque la dent quand le baron est prêt. Hein, quoi
hein, qu'est-ce qui se passe?
Débile.
Hey Leto, qu'est-ce qui se passe, mec? T'es en train de délirer. Ouais. Hey, les dents, non, les dents. Hey, tu serres trop les dents, frère. Qu'est-ce que t'as pris? Le baron. Non, mec, les DJ, c'est fini.
On n'est pas au baron, là. On est rentré à la maison. Non, il est trop tard, maintenant.
Hey, t'es en train de me faire chèpe, là. T'es en train de me filer grave.
Et donc, il explose sa dent sans tuer le baron. Et femme,
nul,
sa femme qui sent au loin qu'il est mort. Et que
il est mort.
Ah oui, c'est très bien joué. Ouais.
Dans le
film, il est mort.
Ils volent toujours. Alors, ils volent tous les deux en zone interdite.
En région polaire australe.
Il se pose dans les rochers et Paul est quand même en colère contre sa mère qui s'est plutôt bien remis de la mort de son mari puisqu'elle est déjà en train de lui parler du fait qu'il est l'élu et que tu fais mais laisse-le tranquille, il vient de perdre son père quand même.
Mais il dit qu'il s'en bat les couilles, hein. Il dit je ressens rien. Bah, c'est les pieds, ça,
ouais,
tu m'étonnes.
Je sens plus mes doigts de pied.
Ça, c'est l'effet troisième para, je pense. Et il est passé 4h du mat. Ouais. Et Polo, il a la jambe. Il bouge plus. Il essaye de lire ses textos. Il comprend plus rien. Bon, là, généralement, si c'est avec mes potes au transmusical, tu mets ton pote dans le bus et tu rentres.
Ouais, bye. Et non, il sait que sa mère est enceinte. Il l'a senti. Et qu'il vengera à son père. Et donc, ils se mettent en route dans leur. Ils ont leur combi, là. Leur combi sueur, pipi, caca. Combi 3 en 1.
Ma mère, elle est bonne, ta mère.
Quoi?
Quoi ?
Puis j'ai compris la blague.
Ma mère, elle est bonne, ta merde.
Parce que comme c'est la combi qui recycle, j'explique la blague pour les auditeurs.
Tu me feras goûter.
Oh non, non.
Bah non, c'est non, c'est non. Non. Il doit traverser le désert.
Horrible.
Donc, il l'attire un verre avec un gros marteleur.
Ouais. Alors ça, c'est alors en vrai, c'est pas des trucs pour attirer les vers, c'est des trucs pour chasser les taupes en fait. Ça marche très bien si vous allez dans votre jardin, vous utilisez ça, c'est super.
Quand tu mets des marteleurs.
Ouais.
Et donc ils vont avoir le gros ver à leur trousse, mais ils réussissent à aller de l'autre côté. Mais en fait, ah oui, si, ils sont sauvés parce que il y a un autre marteleur.
Oui, il y a quelqu'un d'autre qui a mis son marteleur.
Ah, et c'est qui?
C'est qui? C'est Fremen.
Et voilà.
Eh oui.
Et les Fremen, peux-tu nous parler des... Qu'est-ce qui se passe entre Paul,
fier,
maman et...
Fier peuple guerrier, les Fremen.
Et qui font peu confiance.
Dont la confiance est fine. dure à atteindre. Coup de bol, se trouver absolument vraiment au même endroit qu'eux.
J'adore parce que vraiment, ils sont dans des rochers. Il fait, mais il y a des escaliers dans ces rochers. Je fais, est-ce que c'est possible de bah, peut-être mettre un panneau? C'est ici, chez les Fremen, en fait.
Ou en fait, faites des constructions, en fait, parce qu'au bout d'un certain moment, si ça fait vraiment des milliers d'années que t'es là, bah tu as commencé à aménager. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que vraiment ils se pointent et les Fremen ils sont tous sous les rochers, ils sont tous mais tout droit face à eux.
Ouais.
Il y a personne en train de, je sais pas, de tchatcher, de fumer une clope et tout. Tout le monde est en train d'attendre face à eux, genre c'est nous les Fremen. Moi je suis le chef Fremen, d'accord. Donc c'est vous. Donc là il se fait choper, le chef Fremen se fait choper par la mère qui lui fait une espèce de clé de bras et l'autre fait waouh, tu maîtrises le MMA. Il faut nous apprendre. Vous serez nos amis désormais.
Et là, est-ce que vous pouvez déjà nous apprendre à marcher? Parce que nous sommes debout depuis 6000 ans.
Là, je note deux choses. Une clé de bras, apparemment, pour eux, c'est impressionnant. J'ai envie de dire, elle est pas gagnée, la guerre. L'heure du Jihad Galactique, là, il est pas gagné. C'est leur mot. Deuxièmement, bon bah finalement ça s'est plutôt bien passé parce
la
que
la confiance.
Il passe la nuit avec eux littéralement et le lendemain c'est l'élu.
Oui. Ouais. Et puis pardon mais de la même façon, enfin je veux dire le premier move de Paul c'est de dire à Chani, je l'ai vu dans mes rêves.
Ah oui là il y a red flag normalement.
Mais non.
Tu es si belle.
Et c'est là qu'on va tout de suite lui donner ses noms, donc le nom d'Uzul et ensuite
c'est lui qui dit Paul Moadib, la petite souris du désert.
Toi tu seras Popol. Adolphe.
Et en gros c'est.
Ah non je peux pas vous faire ça, il y a 10 000 ans il y a un mec qui s'appelait ça. Je suis sûr c'est vachement.
Qu'est-ce qu'il y a, ça ne plaît pas? Comment appelez-vous l'ombre de la souris dans la deuxième lune? Adolphe. Ah merde, la troisième lune.
Ah mais vous n'êtes pas au courant, alors attendez.
Ah vous avez pas Encarta vous? Parce que moi j'ai Encarta, je suis au CD3. Vraiment il se passe des trucs pas beaux quoi. Enfin bref.
Non mais et c'est là que se finit le premier film de Villeneuve à peu près, enfin c'est pas exactement. Pour expliquer aussi pourquoi on comprend rien à celui de David Lynch, c'est qu'il essaye de raconter dans un film plus court qu'un seul film de Villeneuve,
deux
la même
de
deux fois plus de choses, donc c'est difficile et c'est raté.
En ajoutant des trucs, parce que leur putain de truc à la voix là, leur flingue de voix.
Ah ouais, les trucs à la con.
Ça a été rajouté par ce trouduc de David Lynch. Ce qui veut dire qu'en fait le mec s'est dit,
alors
il s'est pas passé grand chose depuis quelques temps. En carta on l'a fini, je vais mettre des flingues qui font pampan quand tu dis pampan.
Non mais l'univers est pas assez dense.
Pampan. Ça fait pampan quoi.
Mais parce que personne n'osait lui dire que c'était une idée de merde.
En plus,
ouais, David, c'est super, oui. C'est...
Non, mais ils ont déjà des flingues qui font pampan sans dire pampan. Pour rajouter l'intention. Ouais, ok.
Et Paul et sa maman vont donc suivre les Fremen qui vivent dans les rochers. Ils ont une très grande piscine, j'ai trouvé ça sympa.
Ouais.
Caché.
Ouais. Bah, des décalitres d'eau, des pièges à vent et.
C'est
pas Mickaël encore une fois.
Ça reçoit au Club Med.
Ça reçoit pas mal.
Ouais.
Et pendant ce temps, il y a le baron.
Ah ouais, c'est bien ce que vous avez. Mais en même temps, on a des combis pour bouffer notre merde. Tiens, tu veux goûter.
Voilà.
Puis quand t'as pas bouffé, toi.
C'est difficile. Hein. Pendant ce temps, le baron.
Non, mais en plus, le baron, il est en train de voler en toupie, là.
Oui, il se marre avec ses potes.
C'est l'élu.
C'est le moment où le baron veut de l'épice, mais à la place de l'épice, il va avoir Sting en slip, quoi. Enfin,
ah, punaise. Alors, il dit à Rabanne.
Il le mate un peu lubriquement. Hein. Il y a un truc quand même
un
peu
chelou,
dégueu, quoi.
Bah, il y a Rabanne qui va être à la tête d'Arrakis et il y a Fett qui est en slip. Il y en a un qui a perdu un peu.
J'avoue. Toi, tu vas me gérer la rébellion de connards là-bas. Toi, tu vas te mettre en slip dans le coin.
Toi, t'es pas mal, tu te mets en slip, tu poses un peu et tu souris.
Ouais. Mais c'est son neveu, donc c'est pas bien quand même.
Alors,
faut pas faire ça.
Une proposition qu'on ne refuse pas des Fremen à Jessica. Non.
Ah.
C'est de devenir révérente mère.
Ah oui.
Moi, j'ai toujours rêvé d'être révérente mère.
Oui, c'est dans ton lycée catholique.
Dans mon lycée catholique.
Mère Sarah.
Mère.
J'ai noté, il y a promotion pour tout le monde, hein, parce qu'ils sont arrivés depuis deux jours. L'autre, c'est l'élu, le messie. Tu fais, bon, bah, ouais. Alors, fils du patron, j'imagine, parce que déjà, on l'a pas vu faire grand chose pour l'instant. Pareil, la femme du patron, elle est révérende mère en deux jours. Tu fais, bon, bah, l'autre, elle a mis 50 balais pour s'y mettre. Mais moi,
elle passe quand même un mauvais moment quand elle boit son petit liquide bleu et qu'elle accouche prématurément, la Jessica.
Ah, son curaçao, là, ouais.
Bah, c'est-à-dire que c'est dégueulasse, le pardon.
On s'est déjà fait mal pour moins que ça, aussi, c'est vrai.
Et la naissance prématurée, donc, d'Alia, qui est la petite sœur de Paul, qui est
pas la chanteuse, hein, du coup.
Nadia. Parle-moi de ta. Pardon.
À chaque fois, ça me fait le même effet.
Et elle naît, en tout cas, avec tout le savoir et le pouvoir d'une révérente mère.
Ça fait beaucoup. La pauvre.
Ouais.
Genre, tu sais, déjà, t'as toute la pression du monde sur ta.
Déjà, t'es une meuf, t'as une charge mentale de ouf. Et en plus de ça, t'as la pression du monde, quoi.
Et en plus, tu sais déjà que le monde, c'est de la merde. À ta naissance, c'est quand même.
Donc, ça veut dire qu'elle, elle a pas besoin de Encarta. Elle a
tout, elle. Elle a tout.
Elle fume des grosses gaulois.
Alors là,
je peux dire, j'ai vu du pays, mon pote.
Grave. Et donc là, on retourne chez le baron. C'est pour une scène que je trouve assez inutile. C'est la scène du chat de Tufir.
Du chat de Tufir.
Le chat de Tufir.
Rajouté par Lynch, aucun sens.
Attends, c'est quoi, rappelez-moi, je me souviens.
Non, mais c'est qu'en gros, ils ont empoisonné Tufir et ils lui disent qu'il va devoir traire le chat tous les jours pour en extirper l'antidote. Là, c'est le moment où j'ai vraiment.
What the fuck?
J'étais devant le film et je vous ai. Putain, mais autant je suis triste que deux heures de perdu, ça arrête bientôt. Autant dans les moments comme ça, je me dis que putain, quel temps gagné, quoi. Enfin.
Et alors, pour une raison qu'on ignore, ils ont scotché un rat au chat.
C'est clair. Fais,
mais oui, c'est
quoi, c'est pour le Dijon, c'est quoi, c'est le mec, une fois qu'il a trait le chat,
oui,
il
veut faire passer le goût, c'est
quoi. Je comprends pas bien.
Et donc, Gégé l'a dit, hein, c'est tout le monde monte en grade. Jessica, elle est révérente mère. Et Paul, lui, va devenir chef des guerriers.
Et il va en profiter, pardon, pour emballer Chani dans le sable, à poil dans l'eau, et ça baise, hein.
Oui, bah écoute, il a le droit de s'amuser un peu. Oui. Et il harangue les guerriers.
Je suis Usul. Paul Muad'Dib. Notre ennemi commun, les Harkonnen, se sont encore une fois rendus maîtres d'Arrakis. Stilgar, votre chef, nous a demandé à moi et à ma mère de vous enseigner l'art étrange pour écraser les Harkonnen. Nous devons faire plus encore. Il faut détruire la totalité de l'épice produite sur Arrakis. La guilde et l'univers entier sont dépendants de l'épice. Celui qui détruit une chose est maître de cette chose. Je prendrai 100 de vos guerriers et je les entraînerai. Ces hommes entraîneront les milliers qu'il reste à former. Quand l'épice sera épuisée, tous les yeux se tourneront vers Arrakis. Le baron et l'empereur lui-même seront forcés de négocier avec nous. Arrakis deviendra pour tous le centre de l'univers.
Il a pas mal d'ambition, hein, le petit Paul.
Mais
ce que je trouve, c'est que pour le coup, autant dans le Dune de Villeneuve, ce qui est bien fait, c'est que tu te prends une forme d'affection pour Paul. Et donc, en fait, tu... Enfin, c'est d'ailleurs, je crois que c'est ce que
et
voulait.
Et qu'il veut pas devenir Messi.
Au début,
en fait, il refuse.
Il refuse, et je crois que c'est ce que Herbert voulait dans le livre aussi, c'est qu'on se prenne d'affection pour ce personnage, et qu'en fait, on se rend compte à la fin qu'on a tort de le désigner comme un héros, parce que finalement, il ne sera pas un héros.
Tel un Fremen.
Il sera plutôt un dictateur sanguinaire, d'ailleurs, au final. Et je trouve que là, Paul est jamais très sympathique. Enfin, je sais pas.
Ouais, mais il est jamais très méchant non plus, quoi.
Non, mais il est nul.
En fait, il est nul.
Non, mais il est nul.
Vu qu'il a zéro, comment dire, émotion quand son père meurt, t'es même pas en empathie avec lui quand il perd son père. Contrairement, pour le coup, je pense, à la version plus récente où c'est assez émouvant ce qui se passe, mais c'est peut-être le seul moment où il y a de l'émotion dans ces deux films.
Mais d'ailleurs, il y a une scène, vous avez remarqué, où il y a deux Fremen qui se parlent et qui dit : il est nul, le Messie.
C'est vrai, c'est vrai.
Déception.
C'est vrai, t'as raison.
C'est qui le nouveau manager qui nous ont collé ? Vient même pas de la même boîte en plus. Vient de là-bas, là, d'Alcadia.
Vient du privé.
Comment s'appelle leur planète aux Atrides ?
Je sais plus. La Catalane.
Ah si, la Catalane. Je connais la Catalane.
Il est catalan celui-là. Oui.
Et donc Paul va mettre les gens à l'entraînement et c'est là qu'ils vont faire des trucs avec les nouvelles technologies,
ils les ont recréés assez vite.
Ça a l'air facile.
Décrive quand même cet entraînement. Ils se battent contre des pyramides noires, quoi. Enfin, c'est quand même très très bizarre.
Et là, tout. En fait, c'est une succession de scènes sans sens. Paul doit encore conquérir le verre pour se faire obéir.
Et à un moment, je crois que Paul, il leur dit : je vais vous faire une démonstration. un son équivaut à une forme. Je fais, ouais. Ah bah ok, on fait ça. Et bah on fait ça. Je non, pense qu'on continue ouais. l'épice et on va dire que le son équivaut à la forme.
En roulant un énorme trois feuilles. Ouais. Mec, je vais vous montrer des arts très étranges. Mec, avec ça, je peux te dire, Babylone pourra pas t'atteindre.
Ok, d'accord.
Ouais.
Et donc, on va abattre Babylone.
Et donc, on comprend que son nom tue aussi, puisqu'ils se servent de son nom avec l'espèce de petite boîte pour tuer des gens. Donc,
encore des boîtes dans tous les sens.
Et qu'est-ce qu'il veut faire Paul, comme tous les adolescents?
Eh bien, chevaucher le verre.
Chevaucher le verre. Hein,
hein. Et oui.
Le gros geek du désert. Hein. Allez, on y va, Paul. Paul veut se concentrer. Il attend.
Et qu'est-ce qu'il fait, Paul? Il est là parce qu'au cas où on comprend pas bien ce qui se passe, il nous dit ce qu'il y a dans sa tête. Je ne dois pas avoir peur. Je vais chevaucher le gros verre.
La peur, c'est nul.
Est-ce que vous pensez que c'est une métaphore des premières érections masculines, peut-être?
Ben, je sais pas. Comment vous avez senti, vous aviez l'impression de chevaucher un verre géant pendant vos premières érections ou pas?
Ouais, grave.
Ah, Mickaël, je t'annonce.
C'est toi la psycho. C'était plutôt un astico.
Il faut pas confondre avoir le baron et avoir le barreau, hein, Mickaël. Ah, attention, ouais. C'est pas pareil.
Ça n'a rien à voir.
À 12 ans. Waouh, qu'est-ce qui se passe? C'est Dune dans mon slip.
J'ai un verre géant dans le slip.
Ouais, je suis à Yaloum, là.
Je trouve qu'il y a plein de sous-textes. Alors, ça se trouve, il y a plein de gens qui ont étudié ça. Il y a peut-être même des gens qui ont fait des mémoires, genre la sexualité dans le texte de Dune de Frank Herbert.
Ils ont marqué verre égale bite. Ils ont eu 20 sur 20, il paraît.
Non, mais je pensais plus à la boîte des Bene Gesserit dans lequel il rentre un peu. Non, mais il y a un truc, même dans la façon dont elle le regarde et tout, je trouve que...
Quand on a réécouté l'extrait, il y avait presque un truc un peu sexuel. Un peu sexuel, dans la manière de dire...
Voilà.
De quoi? Dans la scène de la boîte?
Ouais. Ouais. La scène de la boîte. Et donc...
J'imagine Paul qui va aux urgences, qui fait « Ah, j'ai utilisé la boîte !» J'aurais pas dû avec
j'ai
ça.
Fait
Rémi,
bobo.
C'est encore pour une brûlure de boîte, tu le mets en cellule en salle 2.
J'ai
deux.
Fait bobo au verre avec la boîte.
Vous avez encore joué avec la boîte. Ouais, vous avez joué avec votre verre.
Bon, bref, il contrôle très bien son gros verre.
Il rejoint par son copain et méga... Bah oui, parce que c'est toujours plus agréable à deux, hein, ce genre de choses. Vous m'arrêtez les garçons si je me trompe. Et il y a quand même un méga riff de guitare, genre à ce moment-là, je trouvais ça un peu cool.
Et c'est là que tu vois qu'il commence à faire sauter toutes les épices, que son nom commence à se répandre.
Un peu d'aubergine.
Allez, hop.
Faut torréfier là, vas-y.
Et puis, on va faire un saut de 2 ans dans le temps.
Oui.
Au moins, là, tu la sens bien, l'ellipse, parce que quand celui de Villeneuve, tu vois moins, je trouve, qu'il y a un très long temps qui s'est passé à ce moment-là, et je trouve que c'est un peu dommage. Et donc, il raconte qu'il va mettre fin à la production d'épices, que Rabanne va le cacher à son oncle pour pas se faire têche, que Alia, elle grandit beaucoup plus vite qu'un enfant normal, et que Paul et Shani, ils sont amoureux.
Alors, ils vont avoir littéralement 4 scènes ensemble, hein, dans le film, dans le film. Hein.
L'histoire d'amour.
C'est la comprise.
Tu t'y attaches pas beaucoup à cette histoire d'amour.
Dis donc, t'es pas mal. Et ouais, toi, t'es pas mal aussi. Bah ouais, du coup.
Allez, on baisse alors.
Allez.
Et on va retrouver notre copain Gurney.
Oui, Gurney. Ah bah oui, sacré Gurney.
On sait plus qui
c'est.
Mais... Ouais.
C'est qu'on m'appelle le marteleur.
C'est professeur Xavier.
Alors, on s'arrête. GG.
Tu sais qu'on m'appelle le marteleur, tu veux que j'appelle le verre des sables? désolé.
Bah, GG, il a pas besoin d'outils, hein, s'il a besoin de les attirer vers lui. Hein, c'est, il va direct avec son propre matou. Et hop, dans le sable. Allez.
Du côté de la guilde, on met la pression sur l'empereur.
Méfiez-vous cet été, mesdames.
Le marteleur des plages est arrivé.
Elle a Dune du Pila. GG vous retrouvera.
Je vais acheter le même slip que Steve.
Ah bah franchement t'as des chances de séduire. Donc oui, l'empereur se prend un petit coup de pression parce que sur Arrakis ça va mal.
Ouais.
Bon, je sens que ça fatigue.
Non.
Donc l'empereur,
je pense que David Lynch lui-même était fatigué.
Tout le monde est fatigué.
Moment,
l'empereur envoie toutes ses troupes sur Arrakis.
Il envoie les sardoukars.
Il envoie les troupes.
Et voilà. Paul se réveille en sursaut. Énorme problème. Il voit plus l'avenir alors que jusque-là il voyait.
Ouais.
Et donc
c'est toujours chiant quand ça arrive. Ça. Je sais pas pour vous.
Ça s'appelle la descente, messieurs. Et le polo, ça fait 2 ans qu'il est high on sky, tu vois.
Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, faut que je boive de l'eau de vie. Oui, c'est l'état, mec.
Non, dans ton état, c'est pas sérieux, vraiment, ça va te remettre dedans et tout. Vas-y, file-moi l'eau de vie, toi, je t'ai dit.
Mais alors, le con, comble de l'eau de vie, c'est que tu risques la mort quand tu la bois. Bah super quoi. Ouais. Enfin, on pouvait l'appeler autrement peut-être.
Ah
bah,
ouais. C'est l'eau de vie qu'aucun homme n'a jamais.
Bah, tu risques la mort et la chiasse.
Je peux te dire que celle de mon oncle, tu risques la mort aussi quand tu la bois. Et avec les mirabelles du jardin.
Et tu vois pas le futur, mais tu vois plus le passé par contre.
Tu vois plus rien du tout en fait.
Et t'es aveugle également. Pendant deux jours.
Et donc Paul boit le petit truc là et il est maître du verre et des épices.
Ah oui, c'est quand
c'est
il dit
de la cam et
il
de
dit
son...
le verre et l'épice, l'épice et le verre, c'est le petit bad trip là.
Ouais, ouais, ouais. Ouais. Et à la fin il hurle, le dormeur s'est réveillé, papa.
Ouais, c'est vraiment ça. Il est littéralement en cellule de dégrisement. Ouais, c'est bon, je suis debout, c'est bon, je suis debout.
C'est bon,
c'est bon, ça va,
c'est
va.
Laissez-moi sortir.
C'est qui, je suis fils du duc, quoi.
Lui il est en plein trip et il voit donc le lieu que les femmes ne peuvent pas regarder.
Oui,
il nous le dit.
On saura jamais vraiment ce que c'est. Ouais. Voilà.
Bah, c'est un stade.
Et en tout cas, il y a un truc qui est sûr, c'est que on ne peut y faire le ménage souvent si les femmes ne peuvent pas regarder. Hein.
Ça. Ah, vous êtes durs les filles. On essaye de s'y mettre, mais c'est juste pas notre truc. C'est... Non, mais vraiment.
Bon, Mouadib, il a les yeux bleus. Il prévoit une tempête qui va ébranler l'univers. Et c'est l'heure de la grosse attaque sur les Harkonnen, sur le baron.
Oui,
ça attaque dans tous les sens. Ouais. Boum boum, j'avance à boum boum.
Ils ont des atomiques.
Attends, l'empereur débarque sur Arrakis avec sa fille.
Oui, et surtout c'est Alia, la gamine qui est envoyée en messagère.
Ça c'est assez intéressant que du coup Denis Villeneuve n'ait pas choisi d'adapter cette partie du truc parce que ouais, je sais pas, en même temps, je trouve que c'est quand même assez stylé cet enfant qui fout la trouille avec les yeux bleus.
Oui, c'est vrai qu'elle fout grave la trouille.
Et alors, du côté de l'empereur, également,
c'est
j'ai
Chucky.
Noté, quand vous allez en zone de guerre pour régler des problèmes militaires, n'hésitez pas à amener toute votre famille, tu vois, vraiment.
Oui, c'est
ta
clair.
Fille, tout ça.
Oui, on sait jamais.
On sait jamais, ça peut servir.
Donc, Alia leur dit, faites gaffe, allez vous faire buter.
Mais surtout, elle révèle à l'empereur
qui est Mouadib,
donc que c'est son frère et que c'est Paul.
Et à l'empereur et au gars du fond de la salle qui avait toujours pas compris qui était Mouadib.
Ça attaque dans tous les sens, boum 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 boum.
Bah non, parce qu'ils font piou 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 piou. T'es mort, je t'ai vu.
Alors j'ai
non, c'est pas vrai, j'ai un bouclier.
Que ça soit la gamine qui tue le baron en lui pinçant les tétons, ça j'ai trouvé que pour le coup que s'il y avait un move intéressant de Lynch dans ce film, c'était celui-là quoi.
Et elle lui fait un tortillon.
Ouais. Et ensuite il les mangeait par le verre.
Ouais.
Et elle kiffe trop, elle se marre trop, elle est là genre.
Oui, c'est assez rigolo comment ils s'envolent. Enfin.
Elle va coûter cher en école privée.
À Montessori, c'est fini.
Et en psy, à mon avis aussi. Paul va débarquer pour le face-à-face final face à l'empereur vaincu qui va quand même lui envoyer Fett pour un dernier petit duel.
Ouais, parce que sinon Sting il sert à rien en fait. Toi, donc,
Ah bah dans celui-là il sert vraiment à.
Alors Sting a l'air surexcité d'être là quoi.
Ouais, il a l'air trop content. Ouais,
il fait passer son poignard. Il fait des tours sur lui-même et tu fais. Ouais, t'es allé fort sur les pistes aussi. T'es un peu.
Sting à un moment dit pourquoi retarder l'inévitable et mais on parle de la fin du film ou bien parce que oui c'est une bonne question pourquoi retarder la fin de ce film. Enfin.
Il paraît qu'il parlait à David Lynch directement et qu'ils ont gardé au montage.
Et donc finalement Paul tue Fed, c'est Mouadib, je suis la main de Dieu. Voilà. Il va faire pleuvoir sur Arrakis. Mais tu vois là il y a pas ça finit comme ça alors que ça finit pas du tout avec parce que la fin de d'une de ce livre-là.
Oui, il se marie avec la fille à l'empereur.
Il se marie avec la fille à l'empereur et surtout, c'est le début de la guerre sainte, en fait.
Bah oui.
Il fait une guerre dans tout l'univers et ça, c'est pas du tout genre ça finit, c'est et le ça, maître c'est... de tout. Et
ça, mais
c'est
peut-être que ça correspond plus à la fin du livre, non?
Pas du tout.
Je sais pas.
Non, c'est parce que
j'ai compris.
Non, c'est parce que Lynch, je pense que vu comment ça tournait, il s'est dit clairement, je pourrais pas faire.
Il y aura pas de suite.
Vas-y, cut. Et il fait pleuvoir sur la planète.
Après, c'est la fin du deuxième livre.
C'est la fin du deuxième livre.
Oui, c'est ça. Et après, il y a le livre des guerres saintes, c'est ça?
Ouais, exactement. Mais en tout cas, si t'as pas ça à la fin du film, en fait, tu comprends pas du tout le propos.
Ah bah non, et surtout ça c'est vraiment on finit sur un plan de la sœur qui dit que c'est lui l'élu et ça cut direct et après t'as vraiment genre les acteurs en transparence avec des vagues derrière comme s'ils étaient décédés.
Ah oui, ça m'a fait trop marrer.
Non, c'est pour parler de leur carrière. Moi
non, mais ça faisait presque genre un truc, tu sais, amour, gloire et beauté quoi. Ouais, tam tam, ils se retournent chacun leur tour avec un sourire. Jessica Paul Leto.
Pour des petits clins d'œil et tout.
Alors, je tiens juste à vous dire que moi, ma note suivante, c'est leur piège tombe, mais pas direct sur l'ours. Ça n'a pas très bien fonctionné. Je crois que je me suis trompée dans mes notes de fichier. Oui. Voilà, c'était un petit spoil et pour la semaine.
C'est possible que David Lynch se soit également planté devant ses notes.
Ouais, lui aussi, il n'était pas sur le bon film.
Ça n'a aucun sens.
Voilà, on finit comme ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose d'autre à dire sur ce chef-d'œuvre ?
Probabilité pour que je revoie ce film assez proche de zéro. Quand même.
Tu sais que je pense que je l'ai vu 4-5 fois, donc quand c'était même. Peut-être au moins la 6e.
D'accord, il y a des choses que je comprends mieux maintenant.
Comme quoi, sombrer dans la drogue, ça peut s'expliquer par des traumatismes d'enfant.
Putain, mais grave, mais t'es vachement plus maligne que mon psy, en fait.
et je te coûte 0€.
Mais oui, grave, parce que lui, il raconte des conneries sur ma mère.
C'était notre avis sur Dune, c'est l'heure d'un second avis.
Je n'ai que faire de votre opinion, n'insistez pas, c'est inutile. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un.
Alors, j'ai 12 commentaires d'une, note moyenne 3,1.
Ah ouais, c'est pas mal.
En fait, c'est très bien réparti. T'as vraiment. Il y a autant de 0 étoiles que de 1 étoile. J'ai pris beaucoup de 0 étoiles. On commence avec Fade Away qui lui dit.
Ah, Fade Away.
Fade Away. Une catastrophe. Franchement, je comprends pas. Même avec 10€, on peut faire mieux.
Ouais.
Ma voisine Josette joue mieux que Sting. Bon, on l'applaudit Josette.
Après, est-ce qu'elle est aussi saillante en slip? Oui. C'est pas sûr.
C'est pas dit. Quoique. Ensuite, il y a Blocos44 qui nous dit là où Denis Villeneuve n'a qu'à moitié réussi, David Lynch a totalement échoué.
C'est drôle.
C'est ça, les grands maîtres.
Tonton Antoine qui dit Dune de David Lynch ou comment transformer un monument de la SF en fosse d'aisance pour canidés. Bravo. Un visiteur, il dit. Mon Dieu.
Fosse d'aisance pour canidés.
Ouais. Mon Dieu, que je me suis ennuyé. Heureusement, j'ai survécu avec mon pack de 40. Entre parenthèses, qui a failli ne pas suffire. Ouais. Un visiteur. Mon pote a dormi devant. Moi, j'ai fait la vaisselle. 2h20. Ah oui, alors.
Grosse vaisselle.
Mon autre pote a failli gerber aussi. 2h20.
Ok.
Il le rappelle quand même. Un visiteur qui nous dit, voici les faits. 1. Dune est un monument de la SF. 2. L'adaptation en jeu vidéo qu'a fait Cryo en 92 est excellente. 3. Ce film est une merde. un autre visiteur. Ça a mal vieilli. Ouais. Les effets spéciaux sont tout pourris. Il est trop lent et ne donne pas envie. Si vous l'achetez, tant pis. C'est un poète.
Il n'est pas vraiment lent. Au contraire, il est un peu...
Ouais. C'est un visiteur, encore. J'avais offert ce film à un ami pour son anniversaire. On l'a regardé ensemble et pour tout vous dire... J'ai honte.
On n'est plus amis.
Un visiteur, c'est un copain qui en 1984 m'avait invité au cinéma pour voir un film.
On n'est plus amis non
c'était,
plus.
C'était Dune. Dès les premiers instants, j'étais mal à l'aise. Tu m'étonnes.
Putain.
Alors ce qui est drôle avec Dune, c'est que même les commentaires 5 étoiles sont pas trop assumés. C'est un peu ironique parfois. À la fois kitsch et magistral, cet ovni parmi les films de science-fiction est un paradoxe à lui tout seul. Grand guignol mais hypnotique, gros budget mais parfois carton pâte. Le rythme est très lent, ce qui incite parfois le spectateur dormeur à ne pas se réveiller. Royal, Lynch aura au moins réussi un film dans sa carrière. C'est toujours un plaisir de revoir cette horreur, félicitations.
C'est moi qui ai écrit ça.
Et enfin, Pipe Jean Lefranc, il est superbe mais trop court. Et quelle musique! Un des films dans sa version longue que j'emmène pour 3 ans loin du monde, sans téléphone, sans internet, sans rien.
Oh putain.
Aujourd'hui,
c'est un fou. Faut amener de l'épice aussi en France. Hein.
Mais aujourd'hui, pour vivre coupé de tout, il faut le vouloir. Hein. Même les stations polaires ont internet maintenant. Vu des dizaines de fois, mais surtout dans sa version longue. Quel plaisir, quelle musique. PS, 2 points. Vu à sa sortie, et oui, j'aime Toto, donc je ne suis pas un gamin. À voir, 5 étoiles.
Il y a une version longue.
Et je crois que David Lynch n'est même plus cité dans la version longue. Ils ont remplacé son nom.
Mais c'est à sa demande à lui.
Oui. David Flunch.
Voilà, c'était notre avis et celui des autres sur Dune de David Lynch. Quant à nous.
De Toto.
À nous. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de...
À couteau tiré, mais attention.
Celui de 97.
Celui des années de 90.
Ah oui, dis donc, il y a double piège là entre Dune et à couteau tiré. Il faut regarder les anciennes.
Ouais, faut suivre.
On est un peu old school.
Ça s'appelle The Edge en anglais. C'est si vrai. Chercher.
D'ici là, on se retrouve sur les réseaux sociaux. Et puis avant de se quitter, peut-être un petit...
Oui, alors moi j'ai une petite annonce. Je crois qu'il y a Toto qui passe en concert. J'ai pas eu de place. Si vous avez des plans, pas pour me donner des places, mais pour que je puisse acheter des places, je suis preneuse parce que le concert est complet. J'aimerais bien y aller.
Voilà. Sinon, vous pouvez lui donner de l'argent. S'il y a un mec qui donne 500 000, peut-être qu'on continuera.
Ou des
le million.
Pour un million, on continue.
Pour un million, oui, c'est vrai.
Et on se quitte en chanson.
Oui.
Wouhou.
C'est le karaoké.
Ah, mais je suis pas prévenu, donc.
Moi, je la connais pas.
Moi non plus.
Mais non. Enfin,
si je la connais, mais alors, pas les paroles.
Mais non, mais faut regarder.
Ah si, je la connais en fait.
Ah mais quand même. C'est africain. Hein. En plus, ça est facile à chanter pour toi, ça.
C'est du gâteau.
Je la fais en yaourt, je l'attends.
I hear the drums echoing tonight, and she hears only whispers of some quiet conversation. She's coming in close to fight. The moonlit wings reflect the stars that guide me to salvation. I stopped an old man on the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies.
Impossible à chanter.
Ah, c'est le refrain.
Attention, messieurs dames, ça va partir dans les aigus.
Hurry boy, it's waiting there for you.
Il y a trop de mots.
The dogs cry out in the night as they grow restless, longing for some
solitary company. Très là, le ton, c'est les bonnes notes, je pense.
I know that I must do what's right. Sure as
qu'il y manque un bon maïs, c'est qu'on l'a vu, je pense de serrer et j'ai
dit. I seek to cure what's deep inside. For I know this thing that we've become. It's gonna take a lot to give it away from you. There's nothing that a hungry man or more could ever do. I play the rain down in Africa. Gonna take some time to do the things we never had.
It's a red.